l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées est un organisme qui existe déjà depuis près de 40 ans et on va en parler avec M. Félix Delage-Lorrain. Bonjour M. Delage-Lorrain, comment allez-vous?
Bonjour M. Beauregard, je vais bien et vous?
Ça va très bien.
Oui.
L'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées, comment ça a commencé?
Écoutez, ça, vous l'avez dit, ça va faire 40 ans le 28 avril prochain que l'AMEF, on l'appelle familièrement AMEF, l'Association multiethnique, existe. 40 années à employer, accompagner les personnes en situation de handicap issues de l'immigration. Et il faut que je vous dise aussi, pour les personnes qui ont tout type de handicap, que ce soit un handicap moteur, sensoriel, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et tout type de statut migratoire aussi. Donc, demandeur d'asile, réfugié, résident permanent ou citoyen canadien.
Alors, c'est large.
C'est large.
C'est potentiellement, c'est une population, je dirais, de combien que vous pouvez desservir comme ça?
Écoutez, on a plusieurs membres dans notre association. Cette année, on en avait 118 en 2019-2020. Puis je dirais qu'on dessert 300 à 400 personnes annuellement.
D'accord. Et ça, ça a commencé tout petit.
Oui, ça a commencé tout petit. Au début des années 80, ça a été... on est dans la petite Italie. C'était des parents d'origine italienne qui avaient un enfant en situation de handicap et qui venaient d'arriver à Montréal, qui ont eu l'idée de créer la MEF. Ça a fait des petits au fil des 40 années. Puis on s'est ouvert comme ça. Puis on a continué à accompagner toutes les personnes qui arrivaient à Montréal et qui avaient un handicap de tout type.
Et depuis ce temps-là, évidemment, l'association, elle, s'est intégrée à l'intérieur d'un organigramme d'aide, de soutien, parce que les personnes qui nous arrivent au Québec, au Canada, viennent de toutes sortes de façons, comme vous l'avez dit, il y a une multiplicité de statuts.
Oui, notre mission, c'est vraiment de contribuer au développement du plein potentiel et au pouvoir d'agir de ces personnes-là et de favoriser leur inclusion dans la société d'accueil qu'ils ont choisie, qui est le Québec. Donc, nous, on est vraiment l'organisme qui les accueille et on a un réseau de partenaires avec qui on travaille depuis plusieurs années, vers lesquels on les redirige ou on les guide ou avec qui on collabore dans certains projets pour favoriser cette inclusion-là dans la société.
Alors,
c'est vraiment ça notre rôle.
Dans la démarche de la personne, parce que je suppose que la plupart des personnes qui en situation de handicap avec qui vous travaillez, ce sont soit les enfants au sein d'une famille qui s'en vient, ça peut être avec leur père, leur mère, ça peut être aussi des personnes plus âgées qui accompagnent des adultes en âge de travailler. C'est rarement des personnes seules.
Il y en a. Il y a des personnes seules qui font le choix de venir immigrer ici. On en a, mais on a aussi des familles, des regroupements familiaux, des aînés, en effet, et aussi des parents avec un enfant qui a un handicap, en situation de handicap. Donc, on a vraiment une variété, si je peux dire, de composition, de type de parcours. C'est ce qui fait la richesse aussi de l'association, puis des partages, des échanges qui ont lieu là. Puis, tu sais, les membres et les usagers entre eux se partagent des bonnes pratiques.
Oui.
Et nous, on est des facilitateurs. On organise des ateliers, informations. On a différents groupes, un groupe parents, par exemple. Ça, c'est un groupe qui est spécifiquement pour les parents, justement, d'enfants en situation de handicap. Donc, ils se réunissent plusieurs fois dans l'année pour discuter d'enjeux qui les touchent particulièrement. Un groupe de femmes.
OK.
Donc, elles discutent des enjeux reliés à leur sexe, mais au Québec. C'est quoi être une femme au Québec? Mais c'est quoi être une femme en situation de handicap au Québec?
Issue de l'immigration en plus. il faut être réaliste. Là, on parle de trois pentes à remonter. Ça peut être assez lourd. Dans le processus, à quel endroit est-ce que vous êtes tout juste après la partie gouvernementale d'admission, puis avant l'intégration au réseau de santé ou au réseau scolaire, à quel endroit est-ce que vous, vous vous situez dans le continuum?
On est à la porte d'entrée, vraiment. D'accord. Comme vous dites, on est, bon, une fois qu'ils sont admis au pays, on est l'organisme qui est référé automatiquement à ces personnes. Par exemple, donnez un exemple, les demandeurs d'asile. Mm-hmm. Les demandeurs d'asile, en général, arrivent au PRAIDA, qui est le programme régional d'accueil des demandeurs d'asile, ça qui est gouvernemental. Mais eux, on travaille étroitement avec le PRAIDA. Dès qu'ils ont un demandeur d'asile ou une demandeur d'asile qui est en situation de handicap, ils nous l'envoient directement à l'année. D'accord. Parce qu'ils savent que nous, on va les diriger après, puis on va faire le travail de les amener mm-hmm. aux autres chaînes d'organismes.
Vers les bonnes ressources.
Exactement.
Et comme vous dites, vos membres ont vécu cette expérience-là, parfois à la dure, et en ont tiré des enseignements, puis ça fait des guides, ça fait aussi, je suppose, un groupe de soutien, parce que ça doit être assez lourd pour ces nouveaux arrivants de composer avec un tout nouveau pays, un tout nouveau système, et parfois des barrières linguistiques.
Tout à fait. Je dirais que les bouchées sont doubles, triples, quadruples même mm-hmm. pour eux. Passons à toutes les barrières hein, devant une personne en situation de handicap d'abord. Il y a plusieurs barrières, le capacitisme, la difficulté à trouver mm-hmm. un emploi, un logement adapté, l'absence. On rajoute à ça les barrières d'un immigrant dans la société d'accueil, barrières linguistiques, le racisme systémique, la difficulté à trouver un emploi, un logement, le choc culturel, mm-hmm. l'isolement. Ben, si on combine les deux, imaginez, avoir les deux conditions, handicap plus immigration, ça additionne ces difficultés-là, puis ça met en lumière l'intersectionnalité. Un mot qu'on entend ces derniers temps, qui revient dans l'espace public, mais c'est vraiment ça. Ces gens-là sont dans une intersection et on travaille avec nos usagers sur cette intersectionnalité-là. On les écoute, puis on les aide à naviguer, je peux dire, dans la société d'accueil pour prendre conscience aussi qu'ils portent puis qu'il y a des services qui ont des droits, puis il y a des services qu'ils peuvent utiliser pour avancer. Nous, c'est vraiment ça notre but, c'est les aider à s'intégrer, à être inclus même, évidemment, mm-hmm. faire inclure et intégrer dans la société.
Parce que peut-être aussi dans leur pays d'origine, la perception du handicap ne devait pas être extraordinairement meilleure que ce qu'elle n'est ici. C'est assez universel. cette mauvaise habitude de considérer les personnes en situation de handicap comme étant de deuxième zone. Là. Et je suppose qu'ils ont aussi ce bagage-là qui vont amener avec eux. Je voyais dans...
Mais je réponds sur ça. Je voulais dire quelque chose parce que il y a quand même une notion différente du handicap. Mm-hmm. En général, quand ils arrivent ici, ils portent évidemment ce qu'ils ont reçu dans leur pays par rapport au handicap, mais on note qu'il y a un travail à faire parce qu'il y a une possibilité de réadaptation ici.
D'accord.
Et de participation à la société active. Des fois, c'est même une des raisons pour lesquelles les personnes ont décidé de venir. Alors, il y a une éducation populaire à faire à ce niveau-là aussi pour que la personne prenne conscience qu'elle peut et elle est encouragée à participer à la société. Il y a des outils qui existent.
Elle peut espérer un meilleur devenir et elle a des droits. Et elle a aussi des ressources. Je voyais dans votre page web la liste de vos activités, il y a quelque chose qui m'a accroché, je ne comprenais pas ce que c'était. Vous parlez des récoltes engagées. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ça, c'est un service qu'on a mis en place en 2019. C'est un service ponctuel qui se nommait comme ça à l'époque, mais qui vise vraiment à répondre à un besoin de base. En fait, c'est qu'on avait fait une collaboration avec un organisme en sécurité alimentaire qui nous fournissait des aliments pendant mm-hmm. l'été. Puis, on était comme devenus... On avait ouvert un service de comptoir alimentaire pour certains membres qui étaient vraiment dans une grande précarité et qui venaient chercher des paniers comme ça.
D'accord.
On continue de temps à autre à offrir ce service-là, bien que ce ne soit pas notre mandat premier.
OK, d'accord. Mais en tout cas, je voyais ça, je trouve ça intéressant. Il y avait un aspect de glaneur, il y avait un aspect d'engagement. Est-ce que l'action de l'association, est-ce qu'il y a une action aussi auprès des gouvernements pour essayer de trouver des solutions pour faciliter à l'avenir, essayer de trouver des manières d'arrondir les angles parfois?
c'est sûr, ben, c'est aussi un angle qu'il faut travailler. C'est sûr que la défense de droit, ça nous tient énormément à cœur. On pousse, on appuie, on y croit, on se colle là-dessus. Ça nous préoccupe beaucoup, mais il faut savoir que nous, on n'est pas un organisme en défense de droit à la base.
Essentiellement.
C'est pas dans notre mission. Ensuite, faut dire aussi qu'il n'y a pas d'organisme en défense de droit des personnes en situation de handicap issues de l'immigration. Ça n'existe pas.
Ça vous place un peu devant un vide à combler, puis vous êtes comme...
C'est ça, on est là pour ça, nous.
Vous êtes un peu... Puis il me semble que si j'étais un gouvernement, puis j'avais l'intention d'améliorer un peu cet aspect-là du processus, je me tournerais vers vous.
Faire la messe, tout à fait, mais venez à nous.
Oui, voilà.
On répondra à l'appel, c'est certain. Puis on le fait, la façon qu'on fonctionne, nous, à l'association, au niveau de la défense de droit, c'est que... on travaille avec nos partenaires, disons, qui sont vraiment en défense de droit au niveau handicap, il y en a, puis au niveau immigration. On se divise, si je peux dire, on apporte la voix.
Encore une fois, vous êtes au centre de la toile d'araignée, hein? C'est bien ça.
C'est vraiment la messe, c'est notre créneau, c'est notre expertise, être à la pointe.
Exact. À l'intersection, comme vous l'avez dit.
Exactement.
Ben, je vous remercie beaucoup, M. Félix Delage-Lorrain. Vous êtes un membre, un agent de développement et de communication à l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées. On appelle ça la MEF, parce que ça fait PH pour faire un F à la fin. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous de nous avoir reçus. Bonne journée.